On va aller rejoindre, si vous me permettez l'expression, ma première ministre, parce que j'ai servi dans le même gouvernement, Pauline Marois, première ministre du Québec de 2012 à 2014. Bonjour, Madame Marois.
Bonjour, Bernard.
Évidemment, je vous ai appelé parce que je me suis dit, la dernière grande crise collective qu'on a vécue, le dernier grand drame, c'était Lac-Mégantic. C'est vous qui étiez première ministre à ce moment-là. Et dans le fond, ma première question, c'est quand vous comparez la crise que vous avez gérée à Lac-Mégantic et celle que nous gérons aujourd'hui, est-ce que vous y voyez des parallèles?
Bon, d'abord, ça n'a pas de commune mesure, mais oui, par ailleurs, il y a des parallèles parce que je crois que il faut avoir beaucoup de compassion, beaucoup de sensibilité pour s'assurer que les gens qui sont les plus touchés puissent sentir qu'on est à leur côté, qu'on va les appuyer, qu'on va les soutenir. J'aime bien quand François Legault, quand François dit « Appelez donc quelqu'un qui est âgé dans votre famille, vos parents, vos grands-parents. » Moi, je le fais, je peux vous dire, tous les jours. Tous les jours. Moi-même, je suis confinée, je suis en confinement.
Ah oui?
Et cela étant... Oui, je suis moi-même en confinement, on pourra en parler, mais cela étant, oui. Le parallèle, c'est ça. L'autre chose qui est un parallèle intéressant, mais évidemment, c'est encore une fois, ça n'a pas de commune mesure, et puis j'oserais pas prétendre que c'est la même chose, mais c'est de choisir les bonnes personnes dont on peut s'entourer pour gérer avec nous la situation de crise. Et je pense qu'on le constate avec François, avec le docteur Arruda, avec Mme McCann, plus évidemment toute une équipe qui est en arrière de ceux et celles que l'on voit régulièrement dans les médias. Ça, c'est fondamental. Parce que là, on peut vérifier des hypothèses. On peut aller voir quelles sont aller chercher les meilleures idées pour répondre aux besoins de la population devant laquelle on se trouve. Mégantic, entre autres, je vais vous dire, ça a été un exemple formidable à cet égard-là. Le principal responsable au plan de la fonction publique du gouvernement, le secrétaire général, a pris en charge la responsabilité de l'équipe de la fonction publique qui s'assurait d'aller sur le terrain. On a choisi des gens de très haut niveau en termes d'autorité. On a pris des décisions qui faisaient fi, finalement, de programmes, de règles, de mesures qui nous embêtaient plutôt qu'autre chose au plan de la bureaucratie,
oui,
pour être capable d'aller directement servir les gens. Et en ce sens-là, je pense que la façon dont travaille M. Legault et son équipe, François, pour moi, François, oui, est assez exemplaire. Ça
ne
veut
oui,
pas sont exempts de difficultés ou parfois de mauvaises décisions. Mais jusqu'à maintenant, je vais vous dire que je trouve qu'ils gardent bien le cap, sont francs avec la population. Les propos sont simples, sont accessibles. Ça rassure les gens. Dire merci à ceux et celles qui sont au front. Avez-vous pensé la solidarité extraordinaire que ça exige de nos personnels dans les hôpitaux, dans les maisons pour personnes âgées? On le voit là aujourd'hui comment c'est, entre autres, à très haut risque à ce niveau-là.
Oui.
Alors, oui, il y a des parallèles, mais ça n'a pas aucune commune mesure. C'est énorme, c'est une crise planétaire. Et le Québec a bien réagi, a réagi rapidement. Bravo et merci.
Oui. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, quand vous l'appelez François, ça nous rappelle que vous avez siégé ensemble dans les gouvernements de Lucien Bouchard et de Bernard Landry. Vous avez été des collègues, vous et François Legault. Le François Legault que vous voyez actuellement premier ministre, est-ce qu'il ressemble au François Legault que vous avez côtoyé?
Oui, il y ressemble, mais en même temps, il y a un plus. Je dirais qu'il y a un peu plus de profondeur. Et peut-être, je vais dire quelque chose qui le décrit par rapport à ce qu'on connaît de lui. Il est un petit peu plus humble, je crois. Et on sent qu'il y a de l'humilité chez lui, ce qui n'était pas nécessairement son lot. Vous me permettez de faire cette remarque. Et je trouve que ça le rend plus humain, finalement, et plus près des gens. Et on sent qu'il est en responsabilité, il sait qu'il a cette responsabilité, mais en même temps, il est capable de faire confiance aux gens qui l'entourent, et ça aussi, ça se voit. Mais je crois que le plus important, c'est qu'il a pris vraiment de la profondeur, une certaine maturité, qui fait qu'il peut se mettre au-dessus de la mêlée. Et quand ça va mal, là, puis quand on est dans des situations comme celles qu'on vit, je pense que c'est de ça dont on a besoin comme peuple et comme population.
Quand vous parlez de son entourage, on parle évidemment beaucoup de Horacio Arruda. Vous l'avez connu, Horacio Arruda, vous, Pauline Marois?
Oui, absolument. Écoutez, c'est intéressant peut-être de rappeler la petite et la grande histoire. Quand j'étais ministre de la Santé, je l'ai été de la fin 1998 jusqu'à 2001, jusqu'au mois de mars 2001, c'est moi qui ai travaillé à la préparation de la loi qui l'applique maintenant. D'accord? La loi de la santé publique, la première grande loi qui a été adoptée, c'est moi qui l'ai préparée. C'est pas moi qui l'ai fait adopter parce que c'est Rémi Trudel qui m'a remplacé lorsque j'ai quitté parce que Bernard Landry m'avait confié les finances. Mais évidemment, il a déposé la loi en juin. Donc, on prépare pas une loi comme ça en quelques mois. Donc, j'ai préparé la loi avec Richard Massé, qui était le responsable de la santé publique, et un de ses directeurs, en fait, son directeur, c'était M. Arruda. Et M. Arruda, déjà, le docteur Arruda, déjà, à ce moment-là, avait un sens de l'humour absolument décapant.
Ah oui?
Il était drôle, il était amusant, mais c'était quelqu'un qui avait son franc-parler. Puis quand je l'ai vu, là, je pense qu'il fait un petit peu plus attention actuellement, mais les premières sorties où je pense qu'il a lâché un sacre, si je ne me trompe pas, hein,
oui.
c'est du grand Arruda, dans le sens où c'est un gars tout d'une pièce, hein, très vrai et très entier, mais avec un sens de l'humour qui, moi, me plaisait beaucoup, parce que ça déridait, évidemment, dans un sujet qui n'est pas facile. Alors, la loi qu'il applique maintenant, mm-hmm. est une loi à laquelle il a travaillé avec son patron de l'époque, qui était Richard Massé. Et c'est intéressant de voir ça, Bernard, parce qu'on voit qu'il y a de la continuité dans les gouvernements, peu importe les partis politiques qui occupent les fonctions qui forment le gouvernement. Et ça, c'est un très bel exemple. Et cette loi-là, elle était très audacieuse à l'époque, parce qu'elle donne beaucoup de pouvoir aux responsables de la santé publique. Et c'est normal parce qu'on voulait dépolitiser finalement ça pour que quelqu'un de haut niveau, avec un bon jugement, avec surtout une formation rigoureuse au plan scientifique, puisse prendre des décisions, même si, et dans certains cas, sans avoir à consulter le pouvoir politique. Et je crois que c'est ce qu'on constate maintenant. Puis on voit que l'effet est réel et concret. Ça donne des résultats.
Mais oui, non, c'est très, très bien. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez en confinement parce que vous êtes revenu de voyage, c'est ça?
Absolument. Je suis revenue du Mexique, pour tout vous dire, avec mon conjoint, avec mon mari, Claude. Et on a respecté strictement les règles. Nous sommes entrés à la maison immédiatement, même que j'ai la chance d'avoir 4 enfants très généreux. Alors, ma fille est venue me porter ma voiture à l'aéroport. Elle a mis mes clés dans ma voiture. Elle m'a mis du Purel. Elle m'a mis des serviettes pour que je puisse me désinfecter et tout ça. Et elle m'a salué de loin. Et j'ai pris ma voiture. Je suis rentrée à la maison. Je suis allée chercher mon mari par la suite parce qu'il venait un peu plus tard. Et on est confinés à la maison. On est chanceux. Je vais vous dire, je souhaiterais la même chance à toutes les familles du Québec, à toutes les personnes du Québec, parce que justement, par nos enfants, mon garde-manger est plein. Je n'ai pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Évidemment, beaucoup de tristesse de ne pas pouvoir voir mes enfants et mes petits-enfants.
Oui.
Mais les moyens modernes, ça, c'est formidable. Alors, on se parle presque tous les jours par les FaceTime de ce monde, les Skype et tout ce qu'on peut imaginer comme formule technologique, là, technique, pardon.
Puis Pauline, votre mère de 94 ans est toujours vivante.
Oui.
Alors vous lui parlez, comment vous vous organisez, là?
Ça, c'est une belle histoire. Je suis contente, Bernard, que vous me parliez de ça. C'est une super belle histoire. Parce que d'abord, maman, oui, elle a 94 ans, elle est encore en forme. Elle vit dans une résidence qui est pour personne autonome. Elle a son appartement, mais il y a une très, très grande concentration de personnes âgées. En fait, quasi tout l'immeuble est composé de personnes âgées. Alors, il y a quelques années, je lui ai donné une tablette. Il y a quelques années encore, plus récemment, on a changé sa tablette. Alors, ma mère, elle utilise une tablette. Elle lit ses journaux, elle a accès à des courriels, on lui envoie des photos. Et on l'a aidée à se brancher sur Skype et FaceTime. Elle a les deux. Ce qui fait que tous les jours, sans exception, en fin de journée, entre 6h, 6h30, mes 3 frères, ma sœur et moi, et parfois certains de mes enfants se joignent, on s'appelle et maman est en ligne sur Skype.
Ah, c'est cool.
Ça lui fait tellement de bien. Mais on est chanceux parce que j'ai une mère et mes enfants ont une grand-mère qui est quand même capable d'utiliser cet outil-là. Elle a besoin d'aide parfois. Alors, mon frère, qui est absolument généreux, l'appelle, lui explique comment, sur quel bouton peser pour pas se tromper, etc. Mais c'est un cadeau du ciel de pouvoir faire ça. Alors, en plus de ça, évidemment, on l'appelle, on lui fait des téléphones Skype individuellement, mais se joindre à nous pour cette petite rencontre familiale tous les jours, c'est un bienfait. Et je dis aux gens là, qui nous écoutent, prenez soin de vos parents, de vos grands-parents qui ont besoin peut-être d'un petit coup de fil. Je sais que des fois, on est dans des situations difficiles, mais juste leur dire bonjour, même si ça dure 10 minutes, ça les réconforte, ça leur fait du bien, parce qu'elle aussi, elle est confinée. Complètement. Et on a été très sévère avec elle. On lui a dit, tu ne dois pas sortir de ton appartement. Mon frère va porter de la bouffe que les gens de l'édifice vont lui porter à sa porte. Elle désinfecte tout. Alors, c'est formidable. Mais pensons à ces gens qui sont seuls, isolés, qui ont besoin de nous. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui est branchée. C'est formidable.
Ben oui, je comprends. Là, je vais juste vous dire, Pauline, que j'ai parlé avec des gens de l'entourage de François Legault, puis d'ailleurs, vous en connaissez certains d'entre eux parce qu'il y en a au moins un, en tout cas, qui a été un proche conseiller. Stéphane Gobeil a été un de vos proches conseillers, puis aujourd'hui, il est un des proches conseillers de François Legault. Là, je vous dis pas qui m'a dit ça, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Pauline Marois nous a inspirés dans notre gestion de crise parce que quand elle était première ministre, à un moment donné, bon, c'est arrivé Lac-Mégantic. Et là, il y avait toutes sortes de personnes qui disaient « Oui, mais ça, on peut pas le faire parce qu'il y a telle règle. » Puis, à un moment donné, vous avez mis votre pied à terre, Pauline, et vous avez dit « Hey, là, la bureaucratie va attendre. S'il faut que je fasse les chèques moi-même, je vais les faire, mais laissez faire les maudites règles, les maudites directives, puis occupez-vous du monde. »
J'ai exactement dit ça, et dans ces termes-là, je peux vous le dire. Et puis, je me souviens même, peut-être que vous vous en souviendrez, Bernard, parce qu'au conseil, même au Conseil des ministres, où j'avais demandé, évidemment, je peux pas faire ça là, comme ça, sans une certaine forme d'autorisation et d'approbation, j'avais dit, je me souviens du montant, 60 millions. Je veux dégager 60 millions, puis je veux pas que vous me disiez, ouais, ça va être tel programme qu'on va appliquer. Je veux rien savoir de ça. J'ai besoin que vous me fassiez confiance, que vous fassiez confiance à l'équipe sous-ministérielle qui est là. Il y a des ministres aussi, évidemment, ministre des Finances, ministre de la Santé, ministre de la Sécurité publique, ouais. Bon, ministre d'Environnement dans le cas présent, parce qu'on avait évidemment un déversement majeur avec le lac et les terrains contaminés. Alors, j'ai dit là, vous me foutez la paix. On va aider les gens et je veux que dans la semaine qui vient, les gens aient accès à des chèques, qu'ils puissent aller à l'hôtel, qu'ils puissent aller s'acheter des vêtements parce qu'ils étaient évacués de leur maison. Certaines maisons, évidemment, étaient brûlées. D'autres, ce qui était plus triste, évidemment, des personnes étaient mortes. Alors, j'ai dit, là, c'est terminé la bureaucratie. On réglera ça après. On trouvera bien le programme dans lequel rentrer ça. Et je peux vous dire que dans les jours qui ont suivi, il y a des chèques qui étaient disponibles dans la municipalité même de Lac-Mégantic. Évidemment, j'ai travaillé très étroitement avec la mairesse Colette Roy-Laroche à ce moment-là. Et il y a une chose que j'ai faite, puis je sais bien que François le fait aussi, c'est qu'il faut choisir des gens de très haut niveau pour qu'ils soient capables de prendre des décisions, qu'ils aient de l'autorité dans leur ministère respectif. Si, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas envoyer des professionnels qui sont très qualifiés, etc., mais s'ils ne sont pas capables sur le terrain de prendre des décisions sans avoir à se vérifier trois niveaux au-dessus, on n'avance pas vite. Alors nous, on a envoyé vraiment des gens sur le terrain qui avaient le titre de sous-ministre finalement. Donc, il y avait à se référer à une autre personne si jamais il y avait vraiment un risque ou qu'il craignait de prendre une décision qui avait des conséquences importantes. Alors, ça, là, c'est aussi fondamental dans la gestion d'une crise. Mais celui qui vous a parlé a tout à fait raison. J'ai dit, on met les règles de côté. On les trouvera bien, les programmes dans lesquels rentrer les dépenses qu'on aura faites, etc. Évidemment, c'était pour aider les gens. On avait des gens sérieux qui étaient sur le terrain. C'est parce qu'à un moment donné, si on s'enfarge dans les fleurs du tapis, là, on n'en sort pas. L'avantage de la loi sur la santé publique, c'est celle-là aussi. Hein. Elle donne, à partir du moment où elle est adoptée et où on décrète l'urgence sanitaire, oui, là, oui. Parce que que c'est le bon mot, ben ça nous ouvre des portes aussi. Hein. On peut aller chercher, bon, le fameux débat sur les masques, on peut aller chercher du matériel sanitaire, du matériel pour les patients, pour les hôpitaux, sans avoir à passer par le processus d'appel d'offres qui, évidemment, accélère de beaucoup la prise de décision. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et si j'ai pu inspirer, ben tant mieux. Parce que moi, j'ai vécu ça très durement, l'acné gantique. Je veux dire, j'en parle, puis j'en ai encore des frissons quand j'en parle. Pense aux gens, tu sais, qui ont perdu leur enfant, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu des amis. C'était d'une tristesse lamentable. Et là, je vois l'effort de guerre, littéralement, qui est fait. Puis je me dis, bon, c'est triste, il y a des gens qui sont morts. Je pense aux familles, évidemment, qui ont perdu un parent, un grand-parent. Ben, dans ma propre famille, j'ai quelqu'un actuellement qui est aux soins intensif, une famille éloignée, mais quand même. Et je me dis, moi, c'est toujours ce qui me guidait quand je pensais à prendre des décisions, quand j'avais à assumer mes responsabilités. Je pensais aux gens que je devais servir et que je devais aider. Et le résultat actuellement, malgré tout, quand on regarde le nombre de décès versus le nombre de cas identifiés, je pense que nos mesures ont un impact et fonctionne. Et c'est pour ça que la solidarité doit continuer malgré tous les inconvénients que vivent les gens. Vous savez, j'ai 4 enfants, ils sont tous à la maison à faire du télétravail avec leurs enfants qui sont petits. Alors, je sais ce que ça peut vouloir dire pour des familles actuellement que de vivre la situation que l'on connaît.
Merci beaucoup, Pauline Marois, d'avoir pris le temps. Je suis très content. Tu n'en fais pas beaucoup d'entrevues. Et tu as été très généreux, je l'apprécie énormément. Et puis, au plaisir de se retrouver à un moment donné.
Sûrement, ça arrivera. Et bonne chance à tous ceux et celles qui nous écoutent. Je sais que c'est pas facile, mais comme on dit, on va passer au travers. Allez, merci Bernard.
Salut,
au revoir.
Salut, Pauline Marois, donc ex-première ministre du Québec de 2012 à 2014.